Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Cinquième épisode de la saison. Bonjour à vous, Étienne Gis.
Bonjour, Marie.
Alors, c'est une FAQ consacrée à la santé cette semaine. Vous avez reçu plusieurs questions sur le sujet. Vous n'êtes pas médecin, mais peut-être que votre regard de mathématicien sera éclairant. Vous avez reçu une première question sur une méthode thérapeutique. C'est une question de Stéphanie qui demande : est-ce qu'on peut soigner les maladies par les ondes ?
Cette question me surprend. Elle me surprend, comment dire, un peu par sa naïveté. Elle prouve que Stéphanie ne sait pas ce que c'est qu'une onde, et elle met dans un mot beaucoup de choses qui sont très différentes. Il y a beaucoup de sortes d'ondes. Les ondes, c'est tout ce qui vibre. Les ondes, ça peut être des ondes sonores. Quand je parle, l'air qui sort de ma bouche est contracté, puis dilaté, puis contracté. Les ondes sonores ont une fréquence. La fréquence qui peut être très faible. Si le son est très grave, c'est peut-être 20 Hz ou quelque chose comme ça. S'il est très aigu, ça peut être 20 000 Hz. Mais 20 000 Hz, moi, je ne l'entends pas parce que mon oreille ne le perçoit pas. Vous, probablement, vous l'entendez. Mais au-delà, on ne l'entend plus. Pourtant, les ondes sont là. Donc, nous vivons dans un monde d'ondes qui traversent la pièce et qui ont toutes les fréquences possibles. Et puis, il y a les ondes électromagnétiques. Et je pense que c'est à ça qu'elle pensait. Mais il y a beaucoup d'autres ondes. Il y a, par exemple, les marées. La mer qui monte et qui descend, c'est une onde. Il y a les tsunamis. C'est aussi une onde. Les ondes gravitationnelles, dont on a beaucoup parlé il y a peu de temps. Donc le mot « onde » est un mot qui a une multitude de sens différents et qui signifie essentiellement pas grand-chose en soi, à part le fait qu'une onde est quelque chose qui se reproduit périodiquement. Il y a une période. Et une onde est caractérisée par sa fréquence et par sa longueur d'onde. Alors, les ondes électromagnétiques.
Oui, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les ondes électromagnétiques, la plus connue, ça s'appelle la lumière. On a attendu très longtemps avant de comprendre ce que c'est que vraiment la lumière. On a pensé que la lumière, c'était un peu comme le son, quelque chose qui vibre. Initialement, on pensait que l'espace était rempli, non pas d'air, mais d'une substance qu'on appelait l'éther. Pendant très longtemps, on a pensé que la lumière, d'abord, au début, on pensait que c'était les petits grains de lumière qui circulaient, puis après, on a pensé que c'était l'éther qui vibrait. Aujourd'hui, on sait que c'est tout à fait autre chose. L'éther n'existe pas. C'est un mélange d'électricité et de magnétisme. C'est une théorie qui a mis un temps incroyable avant de se développer. Jusqu'au, disons, la fin du 19e siècle, on a compris, grâce aux équations de Maxwell, qu'il y avait une sorte d'unification de toutes les ondes électromagnétiques qui sont tellement variées. Ça va depuis les ondes radio jusque les ondes lumineuses, les rayons X, les rayons gamma. Toutes ces sortes d'ondes ont des longueurs d'onde extrêmement variées. Un rayon gamma a une longueur d'onde de l'ordre du centième de nanomètre. Un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9, mais c'est tout petit, alors que la lumière visible, en gros, c'est de l'ordre du micron. C'est pas bien grand, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut voir au microscope. Et puis, quand on remonte plus haut, vous avez, par exemple, une onde radio qui fera une longueur d'onde de 1 mètre ou 10 centimètres, des choses comme ça. Donc, c'est pas... Ce sont les mêmes ondes, ce sont les mêmes phénomènes physiques, mais elles ont des longueurs d'onde et des fréquences très différentes. Si on veut savoir l'influence d'une onde sur le corps humain, eh ben, ça dépend. Ça dépend de la longueur d'onde, ça dépend de la dose qu'on reçoit. Parfois, on en a envie de recevoir les ondes. C'est par exemple quand on veut se faire soigner d'un cancer par radiothérapie. Là, on envoie une onde extrêmement énergétique qui a comme but de tuer les cellules cancéreuses. Et puis, il y a des tas d'ondes qui ne servent à rien dans le sens qu'elles n'interagissent pas avec notre corps. Les ondes de radio, par exemple, là, en ce moment, on ne s'en rend pas compte, mais dans cette pièce, on est sujet à, je sais pas, RTL, France Inter, toutes les ondes de radio sont là. Puisque si j'ouvre une poste de radio que je calibre bien mon poste, je vais entendre la radio correspondante. Nous vivons dans une mer d'ondes, et ces ondes sont de toutes les fréquences possibles. La plupart d'entre elles n'ont aucune action physique sur notre corps. Alors, on a beaucoup discuté des ondes au niveau des téléphones, par exemple.
Oui, est-ce que c'est nocif, ça, ces ondes-là ?
Alors oui, c'est une bonne question, mais je ne peux pas y répondre. Pourquoi je ne peux pas y répondre ? Parce que, de la même manière que le mot « onde » est un mot qui a de multiples significations possibles, maintenant, on arrive au mot « nocif ». Qu'est-ce que ça veut dire, nocif ? Rien. Ça ne veut rien dire. Si on dit qu'il y a une chance sur un million qu'une onde, je dis au hasard, hein, qu'une onde Wi-Fi puisse provoquer un cancer chez moi, d'abord, ça veut dire quoi ? Provoquer un cancer, ce n'est pas bien clair. Puis d'autre part, si c'est une chance sur un million, zéro ou presque. Qu'est-ce que ça veut dire un risque ? Là, c'est là que le scientifique est attendu pour qu'il explique ce qu'est un risque et qu'il explique aux gens qu'un risque petit, eh bien, ce n'est pas vraiment un risque parce que c'est tout petit. Il y a très très longtemps, le grand mathématicien Laplace a écrit un des premiers livres de probabilité, très bon livre, qui est écrit d'ailleurs pour le grand public, c'est comme un livre de vulgarisation, il n'y a pas une seule formule dedans. Dans ce livre, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes sur les probabilités, et en particulier, à un moment, il pose la question, mais quelle est la probabilité que je suis prêt à accepter pour mourir maintenant ? Par exemple, si je traverse la rue, à chaque fois que je traverse la rue, je réfléchis pas à ce que je vais me faire écraser maintenant. Peu probable, je fais attention, je regarde à gauche, je regarde à droite. Pas toujours, mais j'essaye de le faire. Il y a un risque que je me fasse renverser, mais ce risque est faible. Et donc la question c'est, quel est le risque que je suis prêt à accepter naturellement ? Et il fait quelques calculs, que si je me souviens bien, il y a bien 1 sur 10 000. Un risque de 1 sur 10 000, on l'accepte. Voilà. On revient à cette histoire d'onde, c'est un peu la même chose. Le scientifique, il ne peut pas dire c'est nocif ou c'est risqué. Et tout ce qu'il peut faire, c'est de mesurer des probabilités. Ensuite, c'est aux citoyens de se renseigner, aux politiques de fixer des normes qui ne doivent pas être dépassées. Donc la question maintenant, on va revenir plus précisément, est-ce que l'histoire du Wi-Fi ou du téléphone portable dépasse des normes. Alors les normes, malheureusement, elles sont un peu variées. Et à ma connaissance, mais comme vous l'avez dit, je ne suis pas médecin, à ma connaissance, aucun travail sérieux n'a démontré que les ondes téléphoniques, par exemple, dépassent les normes qui ont été fixées. Peut-être pour ceux qui passent leur vie au téléphone, ça existe, hein, mais encore même comme ça, je ne suis pas sûr.
Et pour répondre à toute première question de Stéphanie qui demandait est-ce qu'on peut soigner les maladies par les ondes, vous avez répondu à la question. Oui, on utilise toutes sortes de techniques.
Pas toutes. On utilise, par exemple, c'est évident qu'on ne va pas soigner quelqu'un avec une onde de radio. Donc effectivement, les ondes qui sont utiles en médecine sont celles qui permettent de tuer des cellules cancéreuses, mais là, à haute fréquence. Ou parfois, par exemple, on peut nettoyer des choses avec de l'ultraviolet, par exemple. Voilà, c'est des choses qui peuvent être utiles, mais tout dépend de la dose et de la fréquence. La formulation de la question me surprend, parce qu'elle montre, et je ne lui en veux pas à cette personne, elle montre une méconnaissance de base de la science. D'abord, elle pense que les ondes expliquent tout. Et d'autre part, elle n'a pas conscience du fait que le risque est mal défini. Encore une onde que je peux citer, c'est une onde très importante, c'est la mécanique quantique. Depuis plus de 100 ans maintenant, on sait que il y a ce qu'on appelle une dualité onde-particule, qui a été comprise d'ailleurs par un secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, il y a 100 ans exactement. C'est l'idée qu'un objet, un électron par exemple, c'est en même temps une petite particule et en même temps une onde. Et cette dualité entre les deux est un peu difficile à comprendre. Je ne vais pas vous faire un cours de mécanique quantique maintenant, mais c'est très important pour un physicien d'aujourd'hui de comprendre que c'est l'un et l'autre en même temps, qu'il ne faut pas choisir l'un plutôt que l'autre. Donc les ondes sont partout, partout, partout.
Mais vous parliez de méconnaissance du sujet sur les ondes, mais la faute à qui ? Est-ce que c'est le grand public qui se désintéresse de lui-même ou alors il reçoit juste pas l'éducation basique scientifique qu'il devrait avoir
Moi, je suis pour la deuxième solution. C'est la faute, on va dire, c'est la faute aux scientifiques qui n'ont pas su expliquer, ou c'est la faute à l'éducation nationale qui n'a pas eu les moyens d'expliquer comme il fallait. Tout ça est très compliqué. Il faut dire aussi que la science a progressé énormément. Par exemple, cette question de dualité onde-particule qui n'a que 100 ans. Eh bien, il n'empêche qu'on ne peut pas expliquer tout ça à tous les niveaux de l'école primaire, hein, ou même secondaire, ou même du lycée. Et donc, c'est la faute à tout le monde. C'est la faute à un manque d'éducation. Deuxième question.
D'un ancien médecin qui s'appelle Michel, qui a une première question sur les pesticides. Comment est-ce qu'on peut cerner la responsabilité des pesticides qui nuisent à la santé ? Fait ce commentaire, souvent on n'a pas la preuve, mais on a l'intuition que c'est une source principale de nos problèmes de santé. Et si la science arrivait à le prouver, ça finirait par avoir force de loi pour les politiques. Alors je crois qu'il y a certaines études qui prouvent la responsabilité des pesticides sur...
On tombe sur les mêmes questions, ça veut dire quoi responsabilité ? Responsabilité des pesticides, si on découvre que tel pesticide engendre telle maladie une fois sur 10 millions, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? L'autre jour, j'entendais à la radio, on disait que dans tel produit, on a trouvé 12 molécules dangereuses. Mais s'il y a une molécule, c'est pas grave. La question, c'est où est-ce qu'on place la limite ? Comment est-ce qu'on... Pareil, on revient sur la question des normes. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ? Là, le débat, il est évident. C'est le débat qu'on voit entre les agriculteurs et les écolos. Les agriculteurs considèrent que les pesticides en question simplifient leur vie, leur permettent de travailler mieux, de produire mieux, etc. Et puis, de l'autre côté écologique, on dit « c'est dangereux ». Mais tout ça n'a de sens que si on mesure ce que ça veut dire dangereux. C'est probablement dangereux, j'en sais rien.
Pour une exposition, en tout cas prolongée et durable. Et
il faut faire de longues études pour savoir à partir de quelle dose ça peut engendrer des maladies ou des choses de cette nature. Tout ça est très compliqué et je pense qu'on est précisément dans un domaine de la science où on sort de la science puisqu'on n'est pas en train de dire c'est vrai ou c'est faux. On dit c'est probable avec tel degré de probabilité.
On va rester dans la science. Michel a une deuxième question. Comment on passe de la théorie à la pratique ? Comment on passe de la connaissance à l'action ?
Passer de la connaissance à l'action. Alors, ça dépend des disciplines. Hein. Pour moi, qui suis mathématicien, il y a de la connaissance peut-être, mais de l'action, il n'y en a pas.
Non, mais pour la physique, la biologie...
Bien sûr. Alors, c'est intéressant parce que c'est en gros la différence qu'on fait entre la recherche et l'innovation. La grande différence entre... Je fais un travail de science, je fais des découvertes, sans trop me préoccuper de ce à quoi ça pourrait servir. Et ensuite, peut-être que je vais chercher à la mettre en application pratique ou peut-être que quelqu'un d'autre va mettre en application pratique. Et donc, c'est ce passage entre la recherche et l'innovation qui est un passage extrêmement compliqué et extrêmement intéressant. C'est rarement fait immédiatement. Hier encore, lors de la séance de l'Académie des sciences, un physicien nous parlait de ses travaux sur des membranes qui permettent de dessaler l'eau de mer, par exemple, et de produire de l'énergie. Il avait même donné comme titre à sa conférence « De la futilité de l'utile », pour dire que lui ne travaillait pas dans un but précis, il travaillait pour la connaissance abstraite, en quelque sorte. Et il racontait à quel point, dans la démarche de ses travaux, il avait peu à peu pris conscience que ça pourrait servir très concrètement pour dessaler de l'eau ou pour faire de l'énergie d'une manière un peu différente. Et puis, il s'est rendu compte que, en fait, s'il voulait mettre ça au point, il fallait qu'il fasse une start-up, ce qu'il a fait. Il nous a expliqué que la start-up, ce n'est pas ce qui l'intéresse, mais c'était l'occasion pour lui de faire venir des ingénieurs qui avaient d'autres préoccupations que lui, qui mettaient en jeu des questions financières auxquelles lui n'avait jamais pensé, par exemple. Donc, c'est une autre activité qui est tout aussi passionnante, mais c'est une activité différente. Donc, le passage de la science à l'action n'est presque jamais immédiat. Parfois, il est très très long. Il nécessite des compétences qui souvent ne sont pas celles du scientifique initial. C'est cette continuité qui est intéressante.
Alors, on va finir avec une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la pollution par les plastiques?
Alors, je ne vais pas répondre à cette question. Pour une raison très simple, c'est que l'Académie des sciences a publié un rapport sur la pollution par les plastiques. Et je recommande à tout le monde de lire ce rapport qui est sorti il y a peut-être 3 ans, qui a fait une espèce d'état des lieux de la pollution par plastique, qui est une question préoccupante et qui, là aussi, nécessite des recherches pour mieux comprendre. Allez regarder ce rapport de l'Académie des sciences.
On mettra le lien en description sur la page de l'émission. Merci beaucoup, Étienne Gis.
Merci, Marie. Vous avez écouté le trailer In Sea, une musique composée par Terry Riley, qui a servi pour un spectacle de danse de Sacha Waltz.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.